notre thématique du suivant. Parole que Jésus emploie à de nombreuses reprises dans la deuxième partie de la Bible qu'on appelle le Nouveau Testament, et qui relate en fait la vie sur la terre, sa vie sur la terre et les débuts de l'Église. Et avant que Jésus ne quitte cette terre pour rejoindre son Père au ciel, il a laissé à l'Église une mission et il a dit dans Matthieu 28, 19, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et c'est de ce baptême que nous allons parler ce matin, puisque, ben, on l'a dit, plusieurs issues de ce message vont s'engager avec Jésus par le baptême. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes là pour la première fois, vous vous dites, mais à quoi ça sert de se faire baptiser en 2017? Est-ce que c'est pertinent encore ce message de Jésus aujourd'hui? Peut-être que vous avez que je vous la question, pourquoi ces gens-là ont décidé de s'engager avec Jésus? Le premier point que je vais voir ce matin, c'est que la foi en Dieu est nécessaire pour être baptisé. La foi en Dieu est nécessaire pour être baptisé. On fait une lecture dans Marc, versets 15 à 16, chapitre 13, 15 à 16. Et c'est Jésus encore qui parle, il dit « Allez dans le monde entier, proclamez la belle nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Ces deux versets sont tirés de l'évangile de Marc, qui relate aussi cet appel de Jésus et de ses disciples d'annoncer partout le message de bonne nouvelle sur l'ensemble du globe. Et il va préciser que celui qui croira à ce message et qui sera baptisé sera sauvé. Mais il va aussi affirmer que celui qui ne croira pas à ce message sera condamné. Alors, premièrement, une question qu'on peut se poser, mais c'est quoi cette bonne nouvelle? Quel est ce message de bonne nouvelle? Et il y a un passage dans la Bible qui dit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'être humain a été voulu et créé par Dieu pour vivre en relation avec lui. Ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui est juste, ce Dieu qui est pur, ce Dieu qui est parfait, veut une relation d'amour entre lui et nous. Et il a préparé une destinée pour chacun d'entre nous, avec un cadre qu'il a fixé à sa création, afin que tout puisse fonctionner en harmonie. Voilà pourquoi Dieu, parce qu'il est amour, a décidé de créer des hommes avec une liberté de faire des choix. Malheureusement, les humains ont utilisé cette liberté pour rejeter Dieu et s'éloigner de lui. Nous n'avons pas voulu écouter Dieu. Nous n'avons pas voulu lui faire confiance. Nous avons décidé finalement d'être le petit Dieu de nos vies et nous cherchons sans cesse à déterminer par nous-mêmes ce qui est bon ou mauvais pour nous. C'est ce qu'on appelle le péché. Ce péché nous sépare de Dieu et nous influence négativement dans nos relations avec ceux qui nous entourent. On peut parler des guerres que nous voyons, on peut parler des attentats dont nous entendons le son à la télé. Mais pour nous, on peut parler d'adultère, on peut parler de violence, on peut parler d'abus que les uns et les autres peuvent avoir vécu. Bref, nous sommes tous pécheurs. Alors peut-être que quelqu'un va me dire dans cette salle, écoute, moi je n'ai jamais fait tout ça. Moi je suis quelqu'un de bien. Qui n'a jamais menti? Qui n'a jamais volé? Peut-être vous avez juste volé une pièce de 2 euros dans le portefeuille de maman il y a une époque. Peut-être juste un bonbon par-ci, par-là. Quelqu'un me dira, mais moi, j'ai toujours été fidèle à mon conjoint. Jésus dira que quiconque regarde une femme en la convoitant, c'est-à-dire en ayant des désirs portés sur elle, a déjà commis un adultère dans son cœur. Nous tous, nous avons déjà blessé quelqu'un, peut-être par nos gestes. Peut-être par nos paroles. Il y a des commandements de la Bible qui dit tu ne tueras pas, alors peut-être que parmi nous, il n'y a peut-être pas beaucoup de meurtriers. Vous savez qu'on peut tuer les gens par des paroles. Peut-être qu'on a été l'auteur de destruction sur la vie de personne à cause de nos paroles. Donc nous tous, nous sommes pécheurs. Tous, nous avons fait des choses que notre conscience nous reproche. Ce péché qui est enraciné en nous, et qui nous pousse à prendre de mauvaises décisions, qui nous pousse à faire de mauvais choix, nous sépare ce Dieu qui est pur et qui est juste dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il fait. Le résultat de ce péché, c'est que nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes tous coupables devant Dieu et devons être condamnés à mort à cause de ça. Mais si Dieu est un Dieu juste, un Dieu qui exerce la justice, il est aussi un Dieu d'amour. Amen. Et le cœur de Dieu désire que nous soyons pas jugés, mais que nous soyons réconciliés, que nous soyons sauvés par lui. Voilà pourquoi la Bible relate que Dieu a envoyé Jésus pour mourir à la croix. Il a envoyé son Fils comme un cadeau du ciel. Lui qui était sans péché a offert sa vie à la place de la nôtre, à la place de la mienne, pour payer à notre place. Et que Jésus n'est pas simplement mort, mais il est revenu à la vie, afin de nous permettre d'être réconciliés avec Dieu. La mort ne pouvait pas le tenir captif parce qu'il n'avait jamais péché. La Bible dit que la loi du péché, c'est la mort. Cet homme qui est mort en tant que juste a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Il a fait pris nos péchés sur lui, mais il était juste. Il est ressuscité aujourd'hui, il est notre avocat auprès du Père. Dieu a prouvé son amour envers nous alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Voici le message de la bonne nouvelle. Et ce message attend une réponse. Dieu attend quelque chose de nous. C'est que nous croyons à la bonne nouvelle. Le mot croire en grec, c'est le mot pisteo. On le retrouve 132 fois dans les évangiles. Les évangiles, c'est quoi? C'est les livres qui relatent l'histoire de la venue de Jésus. Ce mot pisteo signifie croire, signifie penser être vrai, signifie être persuadé d'un, signifie donner du crédit, signifie placer sa confiance en. Nous sommes invités à croire Dieu. Pas seulement croire en Dieu, croire qu'un Dieu existe, mais croire Dieu. Croire ce qu'il a dit, croire ce qu'il a fait et saisir cela pour nos vies. Jésus attend une réponse à son appel. Jésus attend une réponse à ses vies. Jésus attend une réponse à ses messages. Jésus attend une réponse à ses actions. Soit nous l'acceptons, soit nous le refusons, soit nous le rejetons. Croire en Dieu, c'est lui faire confiance. Et lorsque nous faisons confiance en quelqu'un, ben nous écoutons ses conseils et nous agissons en conséquence. Croire exige notre volonté et notre obéissance. Croire, c'est de recevoir et d'accueillir. Car il est possible pour chacun d'entre nous aujourd'hui dans ce lieu de répondre aujourd'hui à cet appel de Jésus. Il est possible aujourd'hui de lui demander pardon pour nos fautes. Il est possible pour nous aujourd'hui de croire qu'il a accompli quelque chose pour nous en vue de notre pardon ou en vue de notre réconciliation avec lui. Il est possible de croire aujourd'hui que nous sommes pardonnés et que nous pouvons commencer une nouvelle vie avec lui. Et de laisser nous conduire et nous diriger. Il est possible aujourd'hui de recevoir le pardon des erreurs ou du mal que vous avez pu faire à quelqu'un, même dans le passé, même encore aujourd'hui, peut-être même quelques heures avant de réaliser. Il est possible de recevoir ce pardon de Dieu, ce cadeau de Dieu. Croire, c'est finalement dire à Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que ma vie change. Voilà le préalable au baptême. Ceux qui croient, se faire baptiser. Voilà pourquoi nous ne baptisons pas les enfants dans le milieu évangélique, parce que nous voyons au travers de la Bible que la foi et la confiance en Dieu est préalable, est nécessaire pour pouvoir se faire baptiser. Deuxième point important, c'est que le baptême, c'est l'engagement extérieur d'un changement intérieur. Le baptême, c'est l'engagement extérieur d'un changement intérieur. Matthieu 28, 19, on le relit, allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le mot baptême vient du grec baptiso, qui signifie littéralement plonger, immerger, submerger. Il est le symbole représentant une vérité spirituelle, celle de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, à laquelle les baptisés ont fait l'expérience. En acceptant ce que Jésus a fait pour eux, ils sont devenus de nouvelles personnes. Le baptême reflète l'expérience spirituelle de notre vie transformée par la foi en Jésus, par cette confiance en Dieu. L'immersion dans l'eau, c'est le symbole de la mort à notre ancienne vie. C'est ce que Paul dira dans sa lettre aux Romains. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. La plongée dans l'eau symbolise que tout notre passé coupable a été englouti avec Jésus-Christ dans la mort et que le péché ne domine plus sur nous. Amen. Les baptisés, est-ce qu'on prend conscience de ça? Ceux qui ont déjà fait depuis quelques temps là. Est-ce qu'on a conscience que notre péché a été englouti et que nous sommes une nouvelle personne avec Jésus? Amen. Il faut prendre conscience que quand on s'est baptisé, c'est ce symbole qui est là. Le professeur de communauté et l'embrasseur dit toujours, tu ne peux pas vouloir ajouter Jésus à ta vie sans vouloir soustraire le péché dans ta vie. On ne peut pas ajouter Jésus à notre vie. On a besoin de changer de vie. Et Jésus fait le travail en nous. Mais on ne peut pas ajouter un peu de Jésus pour que notre vie soit un peu mieux. Il faut prendre un choix. Il faut prendre une décision. Soit on l'accepte, soit on le rejette. Mais il n'y a pas d'entre les deux. Et la sortie de l'eau symbolise cette nouvelle vie avec Jésus. Colossiens 2:12, vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Le baptême ne purifie pas, mais il est l'engagement d'une bonne confiance envers Dieu. On voit ça dans la lettre de Pierre, on ne va pas la lire. Vous savez, un bain extérieur ne peut pas effacer une tache qui est à l'intérieur. Je ne sais pas le problème si vous avez déjà essayé de nettoyer vos carreaux, mais parfois il y a une tache et puis on frotte d'un côté. Le problème, c'est que la tache, elle est de l'autre côté. Donc on aura beau frotter, il ne va rien se passer. Peut-être qu'il y en a qui ne lavent pas leurs carreaux, hein, mais un bain extérieur ne peut pas effacer une tache qui est à l'intérieur. Seul Jésus peut le faire. Il a donné sa vie pour lui. C'est-à-dire qu'on prend les eaux du baptême, en fait, on remet entre les mains de Dieu les différents domaines de nos vies. On lui confie les commandes de nos vies. Vous savez, la Bible, elle avait des choses à dire sur comment je vis tous les jours au quotidien. Elle a des choses à m'enseigner sur comment je vis mon mariage. Elle a des choses à m'enseigner sur comment je vis l'intégrité dans mon travail. Elle a des choses à m'enseigner sur comment je dois aimer celui qui ne m'aime pas. Elle a des choses à m'enseigner sur plein de domaines, plein d'actions. Pour remettre finalement nos anciennes façons de penser entre les mains de Dieu et dire maintenant je vais vivre comme toi. L'enseigne de ta parole. On lui confie les commandes de nos vies. Gaëtan Brassard dira encore, si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Si Jésus n'est pas le Seigneur de ta vie complète, il n'est pas du tout le Seigneur de ta vie. On a besoin de lui laisser les commandes. Troisième point ce matin, c'est que le baptême est une déclaration publique de notre foi en Jésus et l'intégration officielle à l'Église. Acte 2, 41-42, ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Quand on s'est baptisé, on prend un engagement devant Dieu, devant le monde spirituel, mais aussi devant les hommes. On est en train de proclamer « Je crois en Jésus ». On est en train de proclamer « Je m'engage pour Jésus » et comme dirait Gaëtan Brassard encore une fois, « Je me mouille devant les autres pour Jésus. » Je prends une décision ferme pour mon Dieu. Le passage montre aussitôt après le baptême, de nouveaux disciples intégraient l'Église en vivant l'enseignement, en vivant la prière et en vivant les relations fraternelles ensemble. Voilà pourquoi on ne se fait pas baptiser dans une baignoire à l'abri des regards. Le baptême, c'est un engagement public, comme le mariage. J'apprends une autre illustration de mon prof de l'école biblique. Qu'est-ce que j'ai au doigt, là? Peut-être que vous ne voyez pas trop, mais qu'est-ce que j'ai? Une alliance. Alors, c'est quoi une alliance? On est d'accord que c'est une bague. Si je décide d'enlever cette bague ce matin, est-ce que ça fera de moi quelqu'un de moins marié que d'habitude? Non. Vous savez quoi sert cette alliance? Elle sert à me rappeler quand je suis entouré de belles madames que je me suis déjà engagé avec une madame. Et elle sert aussi aux autres madames qui sont dans la classe de dire que je ne suis plus sur le marché. est un symbole public. J'appartiens déjà à quelqu'un. Quand on s'est baptisé devant l'Église, devant le peuple de Dieu, pour dire maintenant, j'appartiens à Jésus-Christ. C'est quelque chose de public, ce n'est pas quelque chose de caché. Alors je sais, ça fait toujours un peu peur de rendre témoignage, j'aurais eu un peu de sens, parce qu'ils sont beaucoup, auraient été exclus avant. Ce qui fait qu'ils n'auront pas la pression à cause du public comme certains. Mais en tout cas, avec cette notion d'engagement devant tous, ils vont répondre et dire, oui, je veux marcher avec Jésus. OK? Le baptême, c'est un symbole public que j'appartiens à Jésus. Et dernier point ce matin, le baptême est un acte d'obéissance envers Dieu. Matthieu 3, 13 à 15. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'est opposé en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé pour toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix qui t'entendre de dire ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Cette histoire est intéressante à plusieurs points. On a Jean le Baptiste, donc on l'a appelé Jean le Baptiste parce que justement il baptisait des gens. Il a été envoyé un petit peu avant la vie de Jésus pour annoncer aux gens, enfin, en tout cas avant le ministère public de Jésus, pour annoncer aux gens qu'ils étaient pécheurs et qu'ils avaient besoin de se repentir et de demander pardon à Dieu. Or là, c'est Jésus qui se présente devant lui pour être baptisé. Et on voit Jean-Baptiste qui refuse parce qu'il estime que lui n'est pas digne de baptiser Jésus, plutôt qu'au contraire, c'est lui qui avait besoin d'être baptisé par Jésus. Jésus n'avait évidemment pas besoin de se faire baptiser du baptême de repentance, puisqu'il était sans péché. Mais quand Jésus se fait baptiser, c'est un acte d'obéissance envers son Père et une identification aux personnes pour qui il allait porter les péchés et sa justice parfaite qui leur serait attribuée. Ce baptême de Jésus a inauguré officiellement son ministère public, c'est-à-dire qu'il était l'envoyé de Dieu. Puisque le ciel en a rendu un témoignage direct. Aussitôt Jésus se baptisait, le ciel atteste de ce qui vient de se produire. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ça confirme aussi le travail de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était venu pour appeler les gens à se repentir, à changer de voie à cause de leurs erreurs. Ce baptême était aussi l'image de ce que Jésus allait faire quelque temps après, c'est-à-dire de donner sa vie à la croix et ressusciter pour nous sauver. C'est un avant-goût du baptême chrétien. Le baptême de Jean déclarait le problème. Vous êtes pécheur. Le baptême de Jésus déclare qu'il y a une solution. J'ai donné ma vie. Amen. Alors, quand on dit Amen, ça veut dire je suis d'accord. Le baptême de Jean déclarait qu'il y a un problème. Le baptême de Jésus déclare qu'il y a une solution. Puisque Jésus a été baptisé, alors qu'il n'en avait pas besoin. À combien plus forte raison celui qui se revendique de Jésus, celui qui place sa foi en Jésus doit obéir en se faisant baptiser. Je vous raconter un peu le témoignage de mon époux qui a accepté que je puisse en parler ce matin. Mon épouse Valérie est venue à Jésus lorsqu'elle était adolescente, mais elle refusait toujours de se faire baptiser, parce que pour elle, c'était une tradition religieuse. Elle disait, moi, j'ai une relation avec Dieu, ça me suffit, j'ai pas besoin de me faire baptiser, ça c'est pour faire plaisir aux gens de l'Église, c'est pas la peine. Et elle était à notre foi, dans une rencontre de Jésus, comme on peut en avoir dans nos églises. Et le pasteur a prêché justement sur le baptême, parler des choses du baptême. Et alors qu'elle entendait cette prédication, il y a quelque chose qui a travaillé dans son cœur. Et elle a commencé à réaliser que finalement le baptême, c'était une réponse à l'amour de Dieu. Et que c'était un acte d'obéissance pour son Dieu. Alors elle a décidé de prendre les eaux du baptême, elle ne l'a pas fait pour faire plaisir à son entourage, mais elle l'a fait parce qu'elle a été convaincue dans son cœur et elle a décidé de prendre les eaux.